J'ai eu la chance de pouvoir faire des études à l'Université de Columbia à New York en scénario. J'appartenais à la Film School et certains venaient de l'image, certains venaient de l'écriture. Moi, je venais de l'écriture. Et au retour, j'ai décidé de promouvoir la formule américaine au sein de l'industrie du cinéma français. C'est-à-dire que nous avions des films formidables avec une densité émotionnelle, humaine et des spécificités à la française, mais nous avions peut-être moins une structure rodée, impeccable, mathématique, avec l'efficacité du box-office que permet cette fameuse formule hollywoodienne. L'idéal étant évidemment de mêler une connaissance de ces structures sérieuses avec toute la diversité, l'émotion et la capacité créative qui viennent de tout artiste. C'est-à-dire la formule n'est pas là pour être obligatoirement respectée, mais en connaître les règles permet de motiver une écoute chez le public et maintenir le public finalement piégé dans cette tourbillon qui doit le conduire de la page 1, une page égale une minute, à la page finale. Donc, cette réflexion sur l'écriture m'a permis d'apporter un premier livre à un éditeur qui s'appelle Dixit, qui était spécialisé dans les ouvrages sur le cinéma, et d'ouvrir la porte à la traduction et la présentation sur le sol français d'un certain nombre des grands auteurs du scénario. Grands auteurs du scénario, c'est-à-dire on en parle avec un terme beaucoup plus fort, on parle des gourous du scénario. Parce que les maîtres de cette formule ont une aura, sont connus dans toute la profession et ont une capacité de jeu d'acteur, d'animer des séminaires et d'influencer l'écriture qui est toute l'écriture contemporaine. Donc j'ai traduit tout d'abord Faire d'un bon scénario un scénario formidable, How to make a good script great, de Linda Sager. J'ai traduit également Story de McKee, qui est l'ouvrage type de la pensée, de la philosophie de l'écriture de scénario. Chez Linda Sager, on fonctionne très bien parce que c'est très facile à suivre. Elle travaille à partir d'une douzaine de films, donc qu'elle décortique le travail scénaristique et elle nous incite à visionner ces films en même temps qu'on lit son texte. C'est-à-dire que des films comme Witness ou African Queen, Casablanca, des films qui ont été des succès majeurs et qui ont une aura internationale, sont présentés dans leur déroulement au stade de l'écriture. Donc c'est un ouvrage de base, un ouvrage, un textbook qui permet de constituer sa bibliothèque et vidéothèque. J'allais dire minimal, c'est-à-dire les vraiment élémentaires du petit scénariste, comme on dit, le petit routard. Et on a ensuite un passage, une fois qu'on a décortiqué ce fonctionnement, ce glissement du texte à l'image et qu'on a travaillé à partir des grands noms, des grands classiques du cinéma. Puisque l'écriture est essentiellement visuelle, et donc s'inspirer des maîtres, non pas pour reproduire ce qu'ils ont fait, mais pour comprendre des mécanismes et des mécanismes de fabrication, paraît une étape indispensable. Ensuite, il faut passer au texte de Ziegfeld, parce que Ziegfeld met en pratique de façon extrêmement précise la constitution de la structure. Et la structure américaine est une structure qui, désormais, fait presque figure de passage obligé pour tout scénariste. De la même façon qu'on ne peut pas présenter dans le monde contemporain un texte, un scénario, sans le présenter sur Final Draft, c'est-à-dire dans le logiciel qui est devenu le logiciel universel de l'écriture de scénario, on ne peut pas présenter un scénario espéré être lu si on ne respecte pas la structure présentée par Sitfield, qui n'est en rien la structure de Sitfield, mais qui est la structure vulgarisée par Sitfield. C'est-à-dire que sa structure reproduit tout ce qui a été pensé, imaginé par tous les artistes de la dramaturgie à partir d'Aristote. On doit produire un début, un milieu et une fin, mais on doit le structurer de telle façon qu'on tient par la main et qu'on entraîne en permanence son auditeur. Et on passe par des passages qui semblent peut-être très artificiels pour le commun des Français, mais qui sont des passages magiques. En fait, de la même façon qu'on apprend à nager, apprendre à créer un scénario implique de mémoriser dans son ADN personnel cette structure. Ça signifie que quand on respire, quand on a un souffle, quand on commence une scène, si on la pense avec un rythme qui n'est pas déjà pré-ancré dans la structure, on aura quelque chose de bancal. Alors que avoir compris un certain nombre de critères qui font qu'on doit passer, avancer dans ce rythme précis permet de préécrire déjà dans ce rythme. Et même si la première phrase de Linda Seeger est « on n'écrit pas, on réécrit », si déjà on écrit dans une structure, donc dans un souffle qui est le souffle de l'écriture scénaristique, on a à réécrire, mais à réécrire des contenus et non pas des mécanismes qui sont des mécanismes de base. De la même façon que si on veut donner de l'ampleur à un personnage, on va lui fabriquer une ombre, par exemple. Donc ce sont des petits éléments qui sont en fait les boulons, les joints, le ciment de l'écriture de scénario. On doit, et encore une fois, on doit ne veut pas dire il faut, c'est-à-dire on peut jouer déstructuré et complètement tricher avec cette formule, mais il faut la connaître. Donc on doit démarrer de la page 1 à la page 15, que ce soit en 1 ou jusqu'à 15, avec la présentation de la vie quotidienne du personnage principal. Et entre 1 et 15, il faut un incident déclencheur qui va vous bousculer et l'entraîner dans l'histoire. Dans les films américains, cette page de 1 à 15 se place bien évidemment en page 1, l'exemple type étant les films de Bruce Willis, où avec Die Hard, toute la série de Die Hard, l'explosion a lieu immédiatement. Vous prenez dans le même cas de figure un film extrêmement beaucoup plus complexe comme Usual Suspects, le fil qui va conduire jusqu'à la mise à feu du bateau, c'est immédiat. Donc, alors que le film à la française, le film européen, va étirer au maximum la possibilité d'attendre cet incident déclencheur. Voilà. Ensuite, vous avez un point qui est aussi un point indispensable, qui est en partant du principe que dans les films traditionnels, on avait des films de 2 heures, 120 pages et un point central qui serait la page 60, le midpoint. On va continuer à penser sur cette formule à 120 pages, même si de nos jours, on a plutôt tendance à faire des films qui font 90 pages. C'est-à-dire que tout le ratio est à resserrer. Mais la pensée une page, une minute a été structurée par Sitfield sur la formule à 120 pages, 2 heures. Donc le midpoint est tout à fait au milieu, page 60. Et si on regarde précisément l'ensemble des films contemporains, en tous les cas les grands classiques, les grands classiques du système américain, on s'aperçoit qu'en page 60, on a une pause, on a quelque chose qui est un moment de réflexion et qui est souvent associé à un centre, une bulle, la lune, un lac, quelque chose qui a une forme ronde, qui est vraiment cette espèce de point de positionnement. L'exemple serait peut-être dans Un tramway nommé Désir, on est à un moment sur un embarcadère au bord d'un lac. L'histoire pourrait se terminer là, la page 60, c'est ça, l'histoire pourrait se terminer là. Blanche pourrait être sauvée et épouser Mitch. Mais il va y avoir, il n'y a qu'une partie du parcours qui a été assumée. Or, tout va rebasculer et être sécurisé et épouser Mitch ne sera pas possible. Et on repart pour 60 pages. Or, ces positionnements médians impliquent que dans la première partie, nous avons un défilé des thématiques et des enjeux de dialogue qui vont se reproduire à l'identique inversé dans la deuxième partie, avec une accélération dans la mesure où les enjeux qui étaient des enjeux de surface deviennent des enjeux de personnes et des enjeux universels dans la deuxième partie. Et que le public doit se sentir radicalement concerné par ces enjeux. Dans les moments forts, vous avez évidemment le climax qui arrive vers 90 et qui correspond à la lutte protagoniste-antagoniste. Et c'est le moment où c'est une lutte à mort, c'est-à-dire que la seule possibilité de créer un film, c'est que l'un des personnages gagne. Et donc, pour gagner, il doit affronter son ennemi. Pour affronter son ennemi, il doit avoir appris le langage de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans d'autres de ses ouvrages, qui sont en particulier dans celui sur la comédie de Wojtyła. C'est-à-dire, pour remonter la pente, on doit se saisir de la langue de l'ennemi pour pouvoir mener le combat final. Et après le combat final, en quelques temps, on retraite tous les fils épars de l'histoire. Mais à part ces grands moments forts, on a la constitution de trois actes. C'est-à-dire, de 1 à 15, on a quelque part l'incident déclencheur. Ensuite, vers 30, on a le début de l'acte 2. Et vers 90, donc, juste avant 90, donc 80-90, on a le début de l'acte 3. Donc, on a quelque chose d'assez similaire avec un acte 2 en deux parties, 2A, 2B. Et au milieu de ces deux parties, en 45 et 75, on a ce qu'on appelle les pinches. Et cette fois, ce sont des rappels de la thématique. Rappel de la thématique principale, je vous donne un exemple. Adapté un texte de j'avais adapté Berlin Noir de Philippe Kerr, où dans ce texte, le sujet principal, on a un Philippe Marlowe, un personnage allemand qui ressemble à Philippe Marlowe et qui s'occupe de la quête des personnes disparues juste avant la guerre, juste avant la montée du nazisme. Et l'atmosphère générale, la thématique générale, c'est l'idée de corruption. En page 45, j'avais placé une première corruption qui est une corruption littérale, avec un cadavre dans un monde plat, dans un monde charge, qui est dévoré par des vers, maggots. Et en 75, on a l'équivalent de cette corruption et de cette destruction par la corruption dans une lettre qui est une lettre d'un haut fonctionnaire nazi. Donc on a, dans on, et ça, c'est une idée qui n'a d'ailleurs pas été développé, mais que je pense avoir émis moi-même, qui est que le pinch thématique est littéral dans la première partie et beaucoup plus métaphorique dans la deuxième. Et on avance dans des progressions qui créent une structure et qui cachent en fait les enjeux et les fils. Mais si on respecte ces rythmes, on atteint une force. Et une force de pensée, et on peut placer quelque part le message du texte. Le message du texte est entre 75 et 80, où très souvent vous avez des personnages assis sur un banc, comme dans Will Hunting, Good Will Hunting, où vous avez un moment qui est le moment de grandes réflexions sur la vie, le monde, et les Américains sont très forts pour faire passer un message qui tient en une phrase. Sur le banc, devant le lac. Ensuite, une fois que vous avez réappris les classiques avec Linda Seger, structurez votre texte avec Sitfield, prenez le temps de lire Story de McKee. Mais Story de McKee ne se lit pas au début, parce qu'il faut déjà avoir écrit son texte pour l'avoir lu, pour rentrer en résonance avec ce qu'il vous propose. Et ce n'est pas un texte pour débutants, c'est un texte pour auteur confirmé qui veut se servir de la connaissance de McKee comme soundboard, comme possibilité de se tester en fait. Et ce qu'on apprend de formidable chez McKee, c'est l'humanité de la gestion des enjeux. En fait, c'est très facile quand on commence à écrire un scénario de se lancer dans le ping-pong des dialogues. Mais le ping-pong des dialogues, la force des mots, l'enjeu de la narration et de l'anecdote est purement artificiel. En fait, il faut toujours prendre conscience de ce que les grands Scandinaves avaient mis à jour, c'est-à-dire que ce soit Ibsen ou Strindberg, le travail sur le sous-texte et sur la réalité de ce qui se déroule dans une scène. Et la force, enfin ce que j'ai appris de plus impressionnant chez McKee, tient en une phrase. C'est quelqu'un qui a su démontrer qu'un film va fonctionner si vous rentrez dans une scène avec une charge positive et que vous en sortez avec une charge émotionnelle négative ou vice-versa. Et que si vous n'avez pas cette progression, vous n'avez pas de scène, vous avez quelque chose de plat. Et c'est très facile à dire d'un point de vue intellectuel, c'est beaucoup plus difficile à faire d'un point de vue pratique. Et en plus, la façon dont fonctionne McKee, que ce soit dans ses séminaires de prestation ou dans son discours sur les textes, il faut être capable d'inverser, d'alterner et d'enchaîner constamment ce plus, minus, minus, plus, minus, etc. Et c'est ça qui vous donne ce souffle, cette possibilité de cet allaitement, cet entraînement vers quelque chose qui prend votre cœur vers l'histoire. Tout ça pour vous dire que lorsque beaucoup de critiques ont été faites à l'arrivée de tous ces ouvrages à l'américaine où l'industrie française s'est dit, oulala, là là, mais où est notre possibilité d'imagination, notre liberté, notre droit à l'expression. En aucune façon, ces textes vous imposent un certain nombre de règles. Simplement, ils rappellent qu'il y a un rythme et qu'il y a des enjeux qui vont renforcer votre prestation si vous en avez conscience. Ensuite, le contenu, l'idée, la thématique et la texture, c'est à vous de jouer.